Les deux orphelines, sixième partie, chapitre 8. On avait marché toute la nuit sans faire halte. Les montagnards étaient fiers de montrer aux Français comment ils savaient faire la guerre. Gaspard et les soldats que le chevalier de Vaudreuil avait vus rivalisant d'entrain avec les boys de la Montagne Verte n'avaient pas manifesté la moindre hésitation. Le jour allait paraître quand le chef montagnard, courant au chevalier de Vaudreuil, lui dit « Commandant, le canon tonne à moins de 5 000 d'ici. »« C'est Washington ou Lafayette !» s'écria Roger, dont les yeux lançaient des éclairs. « Peut-être, » répondit le montagnard d'un air de doute. « Les Anglais aussi ont des canons, et je gagerais presque que ceux dont nous entendons les détonations tirent sur les troupes américaines. » « Il faut s'en assurer, » fit le chevalier, et se tournant vers un des hommes qui se trouvait auprès de lui, « Il faut rejoindre tout de suite le lieutenant Gaspard, » commanda-t-il. « Vous le remettrez le mot que voici. » Roger avait arraché un feuillet de son carnet et y avait tracé quelques lignes. L'éclaireur partit. « Commandant, » reprit le chef des boys, « je puis vous certifier qu'en ce moment, l'armée anglaise attaque les Américains et leurs alliés français, commandés probablement par votre compatriote Lafayette. Tenez, jugez par vous-même. » À ce moment, en effet, une colonne de feu éclaira l'horizon, et à la lueur qu'elle projetait, Roger put voir des masses noires descendre d'un versant de montagne comme une avalanche qui envahissait la plaine. Une seconde fusée s'éleva dans l'air. « Regardez à gauche, » dit le montagnard. « Cette longue ligne que vous voyez représente, selon moi, le corps d'armée de Washington. C'est précisément la direction que devait suivre le général de l'indépendance. » Le chevalier de Vaudreuil suivait attentivement les indications de son interlocuteur. Par conséquent, Washington marche en ce moment pour se mettre en contact avec les Anglais. Il l'essaiera, du moins. En tout cas, Lafayette doit chercher à opérer sa jonction avec le généralissime américain. Certainement. Et comme les fusées partant des batteries anglaises se succédaient rapidement, Roger et le montagnard purent se rendre compte des événements qui se passaient à environ une lieue de l'endroit où ils se trouvaient. Tout à coup, les fusées prirent une direction nouvelle. Les batteries tiraient maintenant sur un autre point, absolument opposé à celui où manœuvrait l'armée de Washington. Le chef Boy poussa une exclamation de joie. « Voilà Lafayette !» s'écria-t-il en indiquant du doigt la direction nouvelle qu'avaient prise les fusées de l'artillerie anglaise. Le chevalier de Vaudreuil regarda et son visage prit une expression d'énergie telle que le montagnard comprit ce qui se passait dans l'âme de Roger. « Il vous tarde, commandant, » dit-il, « d'aller au-devant de vos compatriotes. »« D'autant plus, » répliqua Roger, « que nous pouvons être d'un puissant secours au moment où les deux corps d'armée vont tenter d'opérer leur jonction. » « En avant donc, commandant !» Et le chef montagnard, quittant le chevalier, se porta en avant pour s'assurer que toute la brigade des boys marchait en ligne serrée. La canonnade continuait furieuse. Des détonations plus lointaines indiquaient que l'artillerie américaine ripostait. Ainsi que l'avait jugé le chef des Vermontois, c'était bien l'armée de Washington qu'attaquait les Anglais, pour empêcher qu'elle pût donner la main aux troupes que le général Lafayette amenait à marche forcée sur le champ de bataille. Le mouvement avait été éventé par les coureurs indiens à la solde des Anglais, et le général commandant les troupes de la Grande-Bretagne avait pu réussir à se placer entre les deux corps d'armée qui cherchaient à se rejoindre. Des batteries habilement placées battaient toute la plaine que devaient parcourir les soldats de Washington et ceux de Lafayette. En outre, le général anglais avait lancé en avant de ses lignes des nuées d'Indiens qui, avec leur façon de combattre, harcelaient les avant-gardes des deux corps américains. Pour la première fois depuis qu'il avait entrepris cette grande guerre de l'indépendance, Washington se trouvait en défaut de perspicacité et de célérité. Il s'était laissé devancer sur le champ de bataille qu'il avait choisi par son adversaire anglais. Pour la première fois aussi, le général Lafayette s'était trompé sur l'itinéraire à suivre et il arrivait plusieurs heures en retard pour mettre ses troupes en ligne. Il semblait que la fatalité se fût acharnée sur les deux généraux alliés pour empêcher cette jonction de laquelle dépendait le sort de la bataille. 100 fois pendant les heures qui avaient précédé le premier coup de canon, Washington avait envoyé des officiers afin de s'assurer si l'avant-garde de Lafayette n'était pas en vue. Et toujours les estafettes revenaient avec la même réponse négative. Le général américain voyait s'augmenter d'heure en heure ses appréhensions. En outre, les habits rouges commençaient à démasquer les batteries, préludant ainsi à l'attaque décisive qu'ils allaient opérer. C'est ce qui ne tarda pas à arriver. L'infanterie anglaise était déjà en ligne, la cavalerie fut lancée sur les bataillons américains, encore en marche pour la concentration. La charge fut menée avec une vigueur telle que les têtes de colonne de Washington furent sabrées avant d'avoir pu se former en carré. Écrasés, les Américains se retirèrent avec précipitation, portant le désarroi parmi les bataillons qui suivaient. En vain, le généralissime américain commanda-t-il des mouvements dont l'exécution rapide eût pu arrêter la marche en avant de l'ennemi. Les troupes, ébranlées par l'échec qu'avait subi l'avant-garde, ne marchaient plus avec l'ensemble et la résolution indispensable dans le cas présent. Lafayette, arrivant à ce moment, pouvait, en se portant vigoureusement sur le flanc de l'ennemi, modifier la situation. Mais le général ne paraissait pas, et l'infanterie anglaise se présentait en masse profonde pour opérer un mouvement sur le centre des Américains, qui, à force de courage et de volonté, étaient parvenus à se mettre en ligne. Pendant que la bataille se dessinait ainsi au désavantage marqué de Washington, les boys de la Montagne Verte accouraient en toute hâte. Le jour commençait à poindre. Le chevalier de Vaudreuil et le chef des montagnards purent se rendre compte du danger que couraient les Américains. Avec la rapidité du coup d'œil qui lui était particulière, le commandant des boys jugea la situation désespérée. Et se tournant vers Roger, « Commandant, s'écria-t-il, le général Lafayette et ses indomptables Français n'arriveront pas à temps. » Le chevalier était devenu pâle. « Non, continua le montagnard avec un geste de colère. Regardez vous-même, commandant. Les troupes que commande votre compatriote sont encore loin, et les habits rouges peuvent concentrer tous leurs efforts sur l'armée de Washington. C'est la défaite, la déroute, le désastre. » Le chevalier de Vaudreuil eut un tressaillement, puis faisant appel à tout son sang-froid, « Il n'y aura pas de défaite, monsieur, s'écria-t-il, tant que les généraux Washington et Lafayette auront des troupes à commander. Il n'y aura pas de déroute tant que tous les Français ne seront pas jusqu'au dernier étendus morts sur le champ de bataille. » Roger était transfiguré. Ses yeux dardaient des regards pleins de flammes. Sur son visage contracté se lisaient la volonté et l'énergie. Apostrophant le montagnard, « Il faut marcher au secours des Américains !» s'exclama-t-il avec un geste d'autorité. « J'espère que les garçons de Vermont sont décidés à me suivre. »« Je réponds, commandant, qu'ils se feront tuer plutôt que de reculer devant les habits rouges. » »« Mais, continua le montagnard, dont l'émotion faisait trembler la voix, nous sommes bien loin encore. » Il faudrait accomplir un véritable miracle pour arriver avant… Ne prononcez ni le mot de défaite, ni celui de déroute, interrompit Roger avec vivacité. Il n'en est qu'un qui doive convenir à nos oreilles, c'est celui de victoire. À ce moment, d'un bout à l'autre de la ligne des boys, s'éleva une immense clameur. Puis, au cri, succéda le chant patriotique des montagnards de Vermont. Voilà que nos garçons de la Montagne Verte répondent comme s'ils eussent entendu le mot que vous venez de prononcer, commandant. Et le montagnard ajouta, « C'est notre chant de victoire à nous. C'est avec ce chant que nous avons l'habitude de nous exciter à la poursuite de l'ennemi quand nous sommes parvenus à défoncer ses rangs et à le mettre en déroute. » « Eh bien, répliqua le chevalier de Vaudreuil, ce sera aujourd'hui un chant de triomphe ou un chant de mort. Les Anglais l'entendront bientôt, commandant, ce chant qu'ils connaissent bien, car voici la brise du matin qui déjà fait coucher les herbes. Le vent porte du côté de l'ennemi. En plein, commandant. » Roger eut un soubresaut. Son visage rayonna. « Qu'on appelle ici le lieutenant Rabusson » commanda-t-il. Aussitôt, deux montagnards se détachèrent de l'escorte pour obéir. Gaspard arrivait tout échevelé. « Mon commandant » s'écria-t-il, « des bataillons ennemis marchent sur nous. Déjà, les premières lignes se sont engagées dans la prairie. »« Eh bien, tant mieux, lieutenant Gaspard. Nous allons leur opposer des adversaires contre lesquels ils lâcheront pied. Je vous en réponds. »« Des adversaires ?» répétèrent en même temps Gaspard, le chef des boys, et Rabusson qui accourait à l'appel du chevalier. « Oui, répéta Roger en s'animant, deux terribles adversaires qui ne feront pas de quartier, le vent et le feu. » Une exclamation sortit en même temps de toutes les poitrines. « Je vais faire incendier la prairie, » prononça le chevalier de Vaudreuil en élevant la voix. « Hurrah pour le commandant !» crièrent tous ceux qui avaient entendu cette énergique déclaration de l'officier français. Le chevalier avait eu une inspiration de génie. L'exécution ne devait pas tarder à suivre l'ordre donné. Gaspard et Rabusson se chargèrent d'aller prévenir les Français de ce qu'ils avaient à faire, tandis que le chef des boys courait mettre ses montagnards au courant de la décision énergique que venait de prendre l'officier français. Moins de 10 minutes plus tard, les premières flammes dévoraient les hautes herbes dans la savane. L'incendie, alimenté par le vent, faisait rage, ouvrant un chemin aux montagnards que les herbes n'arrêtaient plus maintenant. C'était un spectacle à la fois superbe et terrifiant que celui de cette immense plaine transformée en une mer de feu. Des gerbes d'étincelles s'élevaient vers le ciel pour retomber aussitôt en une pluie scintillante, diamantant de myriades de scories étincelantes les nuées de fumée noire que le vent poussait nauséabonde et suffocante comme pour ensevelir l'armée anglaise dans un linceul. C'est à l'abri de cette fumée, et tandis que le feu leur faisait la place nette, avec une rapidité vertigineuse, que le chevalier de Vaudray et la brigade des Boys purent franchir la distance qui les séparait de l'ennemi. De son côté, l'armée anglaise avait vu le danger. Les soldats qui avaient envahi la prairie se débandèrent et s'enfuirent, portant le désarroi et la terreur dans les bataillons en marche. Les chevaux de la cavalerie, sentant le feu, s'affolèrent et se jetèrent furieux dans les masses d'infanterie. Washington, un instant étonné, ramena ses troupes au combat. Au surplus, à la vue de la prairie en feu, les Américains avaient compris qu'il leur arrivait un de ces secours providentiels qui changent la face des batailles que l'on croit absolument perdues. Et du versant de la montagne où ces bataillons se développaient successivement, Lafayette put juger de l'effet que l'incendie produisait sur les troupes britanniques. Se tournant vers les officiers de son état-major, « Messieurs, dit-il d'une voix que l'émotion et l'enthousiasme faisaient vibrer, celui qui a mis le feu à la prairie a eu là une idée de génie. Comme on en tue quelquefois les grands capitaines dont l'histoire a enregistré les hauts faits d'armes et les inspirations miraculeuses. J'envie, ajouta-t-il, le bonheur de celui qui a eu la présence d'esprit de profiter des moyens qu'il avait sous la main. C'est grâce à son audace et à son génie, je le répète, que les armées américaines devront d'avoir changé en une éclatante victoire la défaite qui s'annonçait comme irrémédiable et désastreuse. » Ainsi que l'avait prévu et annoncé Lafayette, les Anglais, affolés, furent taillés en pièces. La jonction des deux généraux alliés leur porta un dernier coup. La retraite leur était coupée. La débandade se mit jusque dans les rangs de la réserve. De cette magnifique armée, il ne resta plus qu'une cohue d'hommes jetant leurs armes pour fuir plus rapidement. Les drapeaux des vaincus tombèrent pour la plupart aux mains des Boys, qui, arrivés sur le champ de bataille au moment du « sauf qui peut », s'étaient mis à la poursuite des fuyards. Ils rapportaient les drapeaux conquis sur le tertre où se tenaient les généraux Washington et Lafayette. À la tête des Boys unis aux Français marchaient le chevalier de Vaudray et le chef montagnard. En apercevant Roger, le général Lafayette ne put retenir une exclamation de surprise. « Vous, monsieur ? » fit-il. Ce fut le chef des Boys qui répondit. « Monsieur le chevalier de Vaudray » prononça-t-il d'une voix ferme en s'adressant aux deux généraux. « Ah, par l'ordre qu'il a donné d'incendier la prairie, contribue à la victoire. Il a sauvé l'armée de l'indépendance, proclama Washington, en se découvrant devant le jeune officier qui lui présentait le faisceau de drapeaux conquis sur l'ennemi. Lafayette intervint à ce moment. Général, dit-il, s'adressant à Washington, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur le Chevalier de Vaudray, neveu du lieutenant de police de Sa Majesté Louis XVI. Washington reçut les étendards anglais. Et s'inclinant devant le jeune gentilhomme qu'on lui présentait, « Trois de ces étendards reviennent de droit à l'allié généreux qui a bien voulu nous envoyer des soldats tels que vous, monsieur le chevalier. J'ajoute que je ne puis vous prouver mieux le cas que je fais de votre valeur comme capitaine qu'en vous chargeant d'aller porter au roi de France ces drapeaux que vous avez, vous, Français, conquis pour la plus grande gloire et le triomphe de la noble cause de l'indépendance américaine. » Le chevalier de Vaudray était radieux. La renommée qu'il était venu chercher dans les batailles du Nouveau Monde, il l'avait acquise d'emblée éclatante. Désormais, il pouvait retourner en France, avec la certitude que la nouvelle de ses exploits, depuis qu'il s'était embarqué à l'île d'Aix, jusqu'à ce moment où il recueillait la récompense inespérée d'une idée de génie, l'y avait précédé. Aussi, quand Lafayette, prenant à son tour la parole, l'eut félicité chaudement, Roger ne fut-il pas maître de son émotion. Il saisit la main que lui tendait le général, et l'étreignit avec force, sans trouver une parole pour répondre aux éloges que lui adressait Lafayette. Le soir de cette mémorable journée fut marqué par une imposante cérémonie. Washington avait décidé que les drapeaux pris sur l'ennemi seraient portés devant toutes les troupes rangées en bataille. En outre, il voulait que toute la brigade des Boys défilât devant l'armée qu'elle avait si puissamment contribué à préserver d'un désastre dont les conséquences eût été incalculables. Or, ce fut encore pour le chevalier de Vaudrey l'occasion d'une véritable marche triomphale. Comme il tenait la tête de la brigade que l'on fêtait, au fur et à mesure qu'il passait devant le front du régiment, un formidable hurrah l'accueillait, auquel de nouvelles acclamations ne tardaient pas à succéder. Or, ces manifestations, à la fois sympathiques et enthousiastes, se reproduisirent jusqu'à ce que le chevalier et la vaillante brigade des Montagnards eussent atteint l'extrême limite de la ligne américaine. Cette nuit-là, bien qu'accablé de fatigue, le chevalier de Vaudrey la passa tout entière sous la tente où s'étaient réunis Gaspard et le commandant des Montagnards, Douvel et Marianne. La jeune femme avait, pendant les différentes péripéties de la bataille, retrouvé cette énergie, cette force d'âme dont elle avait fait preuve à bord du Glorieux. En assistant à cet incendie de la prairie, elle s'était souvenue de l'effrayante scène de désolation qui s'était produite à bord du brick, commandé par celui qui, quelques mois plus tard, devait devenir son mari. Et Gaspard, qui avait été témoin du courage de cette femme, qui, avant d'arriver là, avait déjà passé par tant et de si terribles épreuves, témoignait tout haut, avec sa verve de faubourien, de son admiration pour sa compatriote. Tout à coup, pendant que la conversation allait bon train, un homme se dressa comme un spectre à l'entrée de la tente, où il demeura immobile, le front incliné. « Rabusson !» s'écrièrent en même temps tous les assistants. Douvel s'était précipité vers le trappeur, dont la poitrine était couverte de sang. « Vous êtes blessé ? » s'écria-t-il. Mais avant que Rabusson eût pu répondre, Marianne s'était précipitée et aidait son mari à faire entrer le blessé dans la tente. Puis, s'agenouillant à côté de celui qui l'avait sauvé, Marianne prononça ces mots d'un ton d'attendrissement. « C'est moi qui vous soignerai. C'est moi qui vous sauverai à mon tour. » Le trappeur tourna vers celle qui lui parlait avec cette douceur, des regards, disant tout ce qu'il y avait d'amour pour elle dans ce cœur qui allait cesser de battre. Le blessé saisit la main de Marianne et vivement la porta à ses lèvres. Puis après avoir regardé tour à tour chacun des assistants comme pour lui adresser un adieu, il ferma les yeux. Un long soupir s'exhala de ses lèvres. Rabusson était mort en tenant dans sa main la main de Marianne. Lorsque 15 jours plus tard le chevalier de Vaudrey prit congé des généraux Washington et Lafayette pour se rendre aux portes d'embarquement, déjà la nouvelle de la mémorable victoire à laquelle il avait pris une part si active s'était répandue dans toutes les provinces. Depuis Vermont jusqu'à Rhode Island, tout le monde racontait les exploits de ce jeune officier français dont la carrière s'annonçait si brillante et si rapide. Aussi, quand le chevalier de Vaudrey traversa ces provinces, les populations lui firent le plus chaleureux accueil. Au port d'embarquement, une frégate allait appareiller pour transporter en France ceux des volontaires qui, blessés grièvement ou amputés, voulaient retourner dans la mère patrie. Le chevalier, fier de cette garde du corps qu'on lui donnait, passa en revue sur le quai ces hommes qui avaient donné l'exemple du courage et de l'intrépidité. Et les habitants, amassés pour assister à ce spectacle émotionnant, acclamèrent tous ces braves qui était tombé au champ d'honneur en combattant pour la cause de l'indépendance américaine. Gaspard, l'endiablé faubourien, avait pris auprès de Lafayette la place que le chevalier de Vaudrey laissait vacante. Le lieutenant Douvel et Marianne furent admis comme passagers à bord de la frégate. Douvel tenait ainsi la promesse qu'il avait faite à sa femme de la ramener en France, à Paris, afin de lui permettre de racheter ce qu'elle appelait son crime. On se rappelle qu'une des conditions que la jeune prisonnière avait mises à son mariage était que le lieutenant lui permettrait de rechercher et de prendre avec elle l'enfant de Madeleine Bachelin. C'était donc pour retrouver son enfant que le lieutenant Douvel quittait l'Amérique. Pendant le trajet qu'il avait fallu accomplir pour atteindre le port d'embarquement, Marianne et le chevalier purent causer de tous les événements qui s'étaient passés depuis le jour où Roger avait assisté au Havre, au départ du brick Le Glorieux, qui allait transporter Marianne, qui, par reconnaissance, se sacrifiait pour sauver de l'infamie l'innocente Henriette Gérard. En apprenant qu'après tant de douloureuses épreuves, tant de malheurs, la jeune orpheline allait devenir la femme du chevalier de Vaudrey, Madame Douvel versa des larmes d'attendrissement. La frégate attendait le vent pour appareiller. Un matin, la population tout entière se porta sur le port pour assister à la canonnade qui s'échangeait entre le bâtiment français et les forts. La frégate, sous voile, envoyait le salut réglementaire au pavillon américain.